L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre dernière émission de cette semaine, l'AJT du local de ce vendredi 19 mars, en compagnie et en studio de Claire. Alors, en studio avec Claire, ou le studio de Château-Gontier, c'est mieux quand même. Salut Claire, ça va?
Salut Marie, salut tout le monde. Et oui, à Château-Gontier, ça fait plaisir, voilà.
J'attendais un petit point sur la météo, je suis déçue, je pense qu'on est plusieurs. Aujourd'hui en tout cas, pas de météo, mais on va parler des élections pour les salariés des très petites entreprises et pour les auto-entrepreneurs, et donc les très petites associations aussi, élections qui commencent ce lundi. Vous entendrez aussi le portrait de l'association Questandi, qui œuvre pour plus d'accessibilité dans les festivals. Et puis ce sera le dernier épisode d'Equa Cacao pour apprendre à déguster et à définir un bon chocolat. Et vous allez l'entendre, on pourrait presque croire qu'on parle de vin.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, le couvre-feu repoussé à 19h à partir de demain.
C'est l'une des principales annonces faites hier soir par Jean Castex. Le Premier ministre a aussi évoqué le reconfinement 7 jours sur 7 dans 16 départements, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes pour 4 semaines. La vaccination avec AstraZeneca reprend cet après-midi après le feu vert délivré par l'Agence européenne du médicament.
Les acteurs culturels se mobilisent demain.
À l'initiative du Théâtre de Laval, du Carré à Château-Gontier et de l'association Poc Poc, un rassemblement est organisé ce samedi à 9h devant le Carré à Château-Gontier pour protester contre la fermeture des lieux culturels et alerter sur la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreux artistes, en demandant notamment la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Un autre rassemblement est prévu, lui, à 11h devant le Théâtre de Laval, occupé jour et nuit depuis mercredi.
Pendant ce temps, les festivals d'été s'organisent.
Les Trois éléphants auront lieu à Laval, mais ce sera une édition forcément spéciale, avec des spectacles d'art de rue et des concerts assis, en jauge réduite, que ce soit en intérieur ou en plein air. Si vous aviez acheté déjà votre billet en ligne, vous serez directement remboursé, ou sinon il vous faut retourner dans votre point de vente physique. Une nouvelle billetterie sera mise en place pour cette édition spéciale d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et le festival Un singe en été change lui aussi de formule. Au lieu des 3 jours prévus, les festivités s'étireront sur 5 jours, avec 8 concerts prévus du mercredi 23 au dimanche 27 juin. Les concerts auront lieu en configuration assise dans le parc du château à Mayenne. Tout sera gratuit, mais avec une réservation en ligne au préalable.
J-99 avant le Tour de France.
Les festivités sont lancées avec 3800 élèves mayennais du CM1 à la 5e qui ont planché ce matin sur la dictée du Tour de France, lue par de prestigieux enseignants d'un jour comme le skipper Maxime Sorel ou le cycliste François Pervis. On connaîtra le 7 mai le nom des deux lauréats qui pourront accéder aux coulisses de l'étape en VIP le 30 juin prochain.
Des lycéens de Château-Gontier défendent leur place en finale du concours des petites plaidoiries.
Ils sont élèves au lycée Saint-Michel. Le binôme exposera une argumentation juridique pendant 5 à 7 minutes pour défendre la cause qui leur a été attribuée. Après une présélection, donc 10 autres binômes ont été retenus pour le concours avec les Castro-Gontériens. Tous sont des élèves de terminale qui ont choisi l'enseignement optionnel droit et grands enjeux du monde contemporain. Ils s'exprimeront à 13h à Nantes devant un jury composé de professionnels du droit et de représentants de l'éducation nationale.
De nouveaux conseillers départementaux contre s'arrêter en juin.
Daniel Lenoir, le maire de Villaines-la-Juhel, ne se représentera pas aux élections départementales de juin prochain, même si ces 20 années ont été exceptionnelles pour moi, dit-il. Et puis il tourne lui aussi la page. Norbert Bouvet, conseiller départemental de Maine-et-Loire et ancien maire de Villers-Charlemagne, a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections pour le département. Il avait été élu pour la première fois en 1982.
À la une du Haut-Anjou aujourd'hui, des vaccins pour les chevaux.
Et oui, non pas pour la Covid-19, mais pour la rhinopneumonie, un virus herpès qui présente deux principaux symptômes, selon Gilles Baratou, interrogé par l'hebdomadaire, des symptômes respiratoires ou des cas neurologiques plus graves. L'épidémie de rhinopneumonie s'est accélérée après une compétition internationale en Espagne fin janvier. Alors aujourd'hui, les propriétaires de chevaux se ruent sur les vaccins et sur les tests pour leurs chevaux, avec un écouvillon dans le nez. Alors là aussi, forcément, ça nous rappelle quelque chose, mais la comparaison s'arrête là. On feuillette le journal un peu plus loin. avec un zoom sur l'entreprise de maroquinerie Evidence à Saint-Denis-d'Anjou qui cherche à embaucher. Elle organise une session de recrutement le 9 avril prochain et peu importe si vous n'êtes pas diplômé dans le domaine ou sans expérience, être manuel, oui, suffit. Une formation de 400 heures sera assurée avec Pôle emploi que vous pouvez d'ailleurs contacter pour vous inscrire à la session de recrutement. Un crânet dans le guide des meilleurs vins de France. Originaire de Cran, Jérôme Galleyrand a obtenu sa première étoile pour son domaine situé au sud de Dijon. Il est primé dans le guide des meilleurs vins de France 2021. Une sacrée reconnaissance, ce sont ses mots, pour ce Mayennais qui a fait des études commerciales, travaillé à la laiterie Célia avant de déménager en Bourgogne en 1994 et de créer son domaine quelques années plus tard, où il produit du Gevrey Chambertin, du Côte de Nuvillage ou encore du Marsannay.
Et Marie, les salariés de très petites structures sont appelés à voter.
Pour leurs représentants syndicaux sont concernés tous les travailleurs des entreprises et associations de moins de 11 salariés. L'élection commence ce lundi 22 mars. En Mayenne, 17 000 personnes sont concernées. Les précisions d'Hélène Bironneau, militante chez Solidaire 53.
Ça concerne toutes les assistantes maternelles, les personnes qui gardent les enfants des parents à domicile, de leur domicile. Ça peut être toutes les personnes qui travaillent en chèque emploi service, donc des élagueurs, des gens qui tournent la pelouse, faire des petits travaux de maison, des gardes d'enfants, des choses comme ça. Ça concerne également les auto-entrepreneurs, les commerces aussi, tous les salariés des petits commerces qui sont pas des chaînes, hein, j'entends bien. Hein. Les listes, ce sont des listes régionales déjà. Hein. C'est-à-dire que les gens de la Mayenne vont voter pour une liste régionale. Mais cette liste régionale va être à officier sur les 5 départements de la région Pays de Loire. Et donc le but de ces élections, c'est de choisir des personnes qui vont être d'une part conseillers prud'homaux. Donc les conseillers prud'homaux, ce sont les gens qui sont chargés de rendre la justice quand il y a des contentieux liés au travail, côté salarié j'entends. Et ça permet, quand il y a un litige, par exemple, un salarié qui va entraîner son patron au prud'homme parce qu'il considère qu'il a été lésé, soit en termes de salaire, soit en termes de carrière, soit en termes d'égalité, etc., il va aller dans un tribunal, le tribunal des prud'hommes. Et là, les conseillers prud'homaux sont les personnes qui sont chargées d'arbitrer, en fait, le litige qu'il y a entre les salariés et les patrons. Le deuxième volet de ces élections, enfin le deuxième côté important, c'est que ça permet de désigner des membres à ce qu'on appelle une commission paritaire régionale interprofessionnelle. Alors, c'est un peu barbare comme nom, mais en gros, c'est les personnes qui vont être aptes à défendre les salariés lors des commissions paritaires et des rencontres avec les patrons. Et ça permet de pouvoir faire avancer le droit des travailleurs dans les toutes petites entreprises. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui vont intervenir sur les négociations salariales, sur l'égalité homme-femme, sur les conditions de travail de nuit, tout ce qui est aussi ce qu'on appelle des accords de branche.
Hélène Bironneau rappelle l'importance de ce scrutin qui n'a obtenu pourtant qu'un faible taux de participation ces dernières années, autour de 7,5%. Les électeurs potentiels ont déjà reçu un courrier fin décembre et en recevront un deuxième, si ce n'est déjà fait, avec un code d'accès pour voter en ligne. Vous pouvez aussi voter par la poste jusqu'au 6 avril. À venir, un nouveau portrait d'association mayonnaise qui s'est développé de plus en plus depuis sa création jusqu'à un arrêt net en mars dernier. Qu'est-ce t'en dit ? À découvrir dans 3 minutes juste après Ina Moja avec Outlaw. Had a hole in my heart this morning. Had to face the truth. Can't stand no more of this feeling that I'm no good for you. So I packed my heart and belongings. All I have to do is hit the road before you get here. I run away from you. I don't wanna hurt you bad. You will want me back, but I won't do that. 'Cause I'm an outlaw.
that's just what I do. Hit the road before you get here, far away from you. I don't wanna hurt you bad. You will want me back, but I won't do that. Cause I'm an outlaw, ready to the bone.
Moja dans l'AJT du local. Petit bonus ou session de rattrapage qu'on vous propose. Vous le savez, la semaine dernière, vous avez entendu différents portraits de différentes associations du collectif UND, Unissons nos différences, Les Deux Rives, ATD Carmonde, la Ligue des Droits de l'Homme ou encore Hébergeurs Solidaires. Et on peut ajouter à cette liste non exhaustive l'association Qu'est Andy, qui œuvre pour rendre accessibles à tous les événements culturels. On écoute Marie-Charlotte Carboni, elle est coordinatrice de projet pour Qu'est Andy.
Alors, Qu'est Andy, c'est une association qui est née en 2008 avec des animateurs de séjours adaptés qui sont allés sur un festival un jour avec des vacanciers et qui se sont rendus compte que c'était très compliqué pour eux d'accéder à ces concerts. Donc, ils ont décidé de créer eux-mêmes un événement qui serait totalement accessible. Et de fil en aiguille, ils se sont rendus compte aussi que c'était compliqué d'organiser un événement vraiment par leurs propres moyens. Et donc, l'association a transformé un peu son objectif pour accompagner les événements culturels à être le plus accessible possible. Donc ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on accompagne donc festivals de musique, de danse, de théâtre, saisons culturelles maintenant, musées, bibliothèques, parfois des événements sportifs aussi, sur tout ce qui est accessibilité pour tout type de handicap.
Et alors plus concrètement, justement, comment on fait pour rendre par exemple un festival accessible ?
Alors nous, comme on travaille sur plusieurs années. Avant, on travaillait sur 3 ans. Maintenant, on n'est plus aussi catégorique. Mais en tout cas, la première année, ce qu'on essaye de faire, c'est de venir voir ce qui se passe déjà sur l'événement, regarder ce qui se fait déjà en accessibilité, ce qu'il y a à continuer à faire, à améliorer. Ensuite, on revient avec des équipes bénévoles. On fait des sensibilisations aussi pour expliquer quels sont les handicaps et ce qu'on peut mettre en place pour compenser ces handicaps. Et puis ensuite, on essaye de rendre autonome le plus possible l'événement pour qu'il soit accessible avec ses propres équipes. Donc après, pour être accessible, il y a un milliard de façons de faire. Mais on va essayer de trouver les solutions les plus faciles à mettre en place. Et puis, on peut aussi proposer du matériel qui va faciliter un peu les choses. Donc nous, à Qu'est Andy, on a par exemple des boucles magnétiques qui vont permettre aux personnes malentendantes de mieux entendre les concerts tout en enlevant les bruits parasites, donc malentendantes appareillées. On va aussi avoir des colonnes vibrantes ou des sacs à dos vibrants qui vont permettre de ressentir les concerts via des vibrations. Voilà, donc ça peut être évidemment pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi avec un autre handicap ou pour le tout public aussi, hein, ça fonctionne très bien. On a des casques d'audio description qui vont permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de se faire décrire les spectacles qu'ils vont voir dans un casque, du coup. Et puis, on a un véhicule aussi adapté qui pourront permettre, sur certains événements, de faire des navettes entre, par exemple, le parking et l'entrée du festival pour les personnes à mobilité réduite, par exemple.
Pas mal de possibilités, finalement. Et alors, en général, c'est à la demande de ceux qui organisent alors la saison culturelle, le festival ou l'événement de manière générale, ou c'est vous qui allez les voir, enfin, comment ça fonctionne ?
Alors, c'est vraiment à la demande des événements. Nous, on a besoin que toute l'équipe de l'événement soit partie prenante du projet, puisque l'idée, après, c'est de nous disparaître pour pouvoir accompagner d'autres événements. Donc, on fonctionne vraiment qu'avec des événements qui nous contactent et avec qui on travaille sur du long terme.
Est-ce qu'on peut peut-être citer quelques exemples ici en Mayenne ? Alors évidemment, on ne pourra pas tous les nommer, mais...
Non, évidemment, mais du coup, on travaille par exemple avec les Nuits de la Mayenne, on travaille avec les Foins de la Rue, évidemment, c'est notre premier partenaire historique, les Trois Éléphants, les Mouillotins, on travaille sur le matériel avec le Théâtre de Laval. On travaille aussi avec la bibliothèque de Laval, le Cinéville, avec qui on organise des cinémas différents, en partenariat avec aussi la ville de Laval. Donc, ils sont des séances de cinéma qui ont lieu tous les 2 mois à peu près, et qui programment donc un film qui vient de sortir, qu'on rend totalement accessible avec un accueil du public adapté, des sous-titrages, de l'audio-description. Et puis une lumière un peu tamisée pour pouvoir se déplacer, un peu faire du bruit aussi pendant le spectacle si besoin. Voilà, ce sont des séances qui sont ouvertes à tout le monde, mais qui sont adaptées aux différents handicaps.
Et donc oui, justement, il y a différents handicaps aussi, donc différentes manières d'adapter un événement. Est-ce que l'idée en général, c'est de dire on va essayer de le rendre le plus adapté possible, ou on fait petit à petit et on voit déjà si ça fonctionne ?
Alors nous, on voit toujours si ça fonctionne, on fait petit à petit, on travaille toujours aussi avec les personnes en situation de handicap, donc avec les associations qu'on a sur le territoire pour trouver les solutions les plus adaptées avec eux, puisque c'est d'abord eux le public visé. Et ensuite, ça dépend vraiment aussi de l'événement en fonction de la volonté et des moyens qu'on peut mettre aussi en place. Parfois, on va nous dire, nous, cette année, on a vraiment envie d'être irréprochable sur l'handicap moteur, par exemple. Et puis, d'autres événements vont nous dire, nous, on aimerait bien faire tout petit à petit, être un peu accessible au fur et à mesure, mais sur tout type de handicap. Donc, on travaille vraiment à la demande et en fonction de ce qu'il y a déjà de mis en place. Vous me demandiez si on travaillait qu'avec des événements qui nous contactaient ou si c'était nous qui les contactions. Il y a 12 ans, c'était nous. On appelait, on essayait de faire du lien, de créer un contact. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Les choses ont changé, les politiques ont changé aussi, les mortalités aussi, évidemment. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. On a énormément de demandes. Et c'est pour ça qu'on travaille uniquement avec des gens qui nous contactent, parce qu'on n'aurait pas le temps d'aller essayer de trouver de nouveaux partenaires. D'ailleurs, l'idée, c'est un peu d'agrandir l'association. Alors, évidemment, il y a eu cette période un peu particulière, donc on espère pouvoir le faire en 2022 maintenant. Mais oui, on a de plus en plus de demandes, et même pour 2020, on avait des demandes de nouveaux partenaires. Et c'est pour ça qu'on essaye de rendre autonomes le plus possible les événements qu'on accompagne, pour pouvoir ensuite s'occuper de nouveaux, travailler avec de nouveaux pour pouvoir répondre à toutes les demandes qu'il y a sur tout le territoire. Nous, on est vraiment sur le Grand Ouest beaucoup, mais on est très très peu nombreux en France à faire ça, donc on a aussi des demandes de beaucoup plus loin. On est allé à Metz, là on a une demande pour Toulouse, Lille, donc voilà, ça nous fait du travail.
Et alors, donc, du coup, ça veut dire que cette association, elle regroupe combien de bénévoles? Parce que j'imagine qu'il en faut des bénévoles pour assurer toutes ces missions.
Exactement. Alors, on est. Donc, moi, je suis la seule salariée pour le moment. Il y a une dizaine de personnes au conseil d'administration qui travaillent pour l'association en règle, enfin, plutôt au niveau du quotidien. Et puis après, au niveau bénévole, c'est assez fluctuant. On peut avoir. On peut appeler une quarantaine de bénévoles ponctuellement dans l'année. Mais après, on a vraiment besoin que les événements aient aussi leur propre équipe bénévole que nous, on va aller sensibiliser et former, même si on n'est pas organisme de formation, mais donner en tout cas toutes les billes pour qu'ils puissent, eux, prendre le relais.
Et donc oui, on l'évoquait tout à l'heure, forcément, depuis un an, j'imagine que votre activité elle est un peu en stand-by. Comment est-ce que vous vivez les choses ?
On a hâte que ça reprenne. Non, bah on est vraiment à la merci de ce que les événements pourront faire ou non. Donc en 2020, ça a été très très calme. On a eu la chance en septembre de pouvoir participer à un ou deux événements comme le Chaînon Manquant, et ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis cette année, on est là en tout cas, et on est prêt à trouver des solutions même au dernier moment s'il faut pour que tout ça reste en tout cas accessible, même si les formes sont différentes cette année.
Vous avez été aussi contacté pour des événements peut-être là ce printemps, cet été ou même cet automne ?
Alors oui, on a été contacté. Après, on travaille en tout cas comme si tout allait avoir lieu. Après, on sait très bien qu'on marche dans le flou. Donc, on a besoin. Je pense que tout le monde a besoin de travailler avec des projets. Et puis, on se dit que si certains ne pourront pas avoir lieu en 2021, on espère que ce travail qu'on aura fait là servira en 2022. Ce n'est pas simple pour nous, mais je pense que ça l'est encore moins pour les organisateurs d'événements qui, eux, doivent s'adapter encore plus que nous depuis maintenant plus d'un an, quoi.
Et donc, du coup, l'association fait partie du collectif Unissons nos différences, toujours dans cette optique de lutter contre ces discriminations, en tout cas, l'accès à la culture.
Exactement. Depuis le début de l'association, on fait partie d'Unissons nos différences, et c'est quelque chose qui est très important pour nous de faire partie de ce collectif, et puis de travailler aussi toujours avec les autres et les autres associations qu'il peut y avoir qui fassent partie du milieu du handicap ou tout autre.
On rappelle le site pour retrouver toutes les infos sur les semaines d'éducation contre les discriminations, collectif-und.fr. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Tame Impala avec Borderline.
We'll be right back.
Borderline de Tame Impala sur l'autre radio. On poursuit l'agité du local de ce vendredi et on poursuit aussi notre tour d'horizon du service civique dans la région avec différents reportages, interviews et portraits chaque vendredi. Aujourd'hui, au micro de Jet FM à Nantes, Wendy Leray. Elle est volontaire pour l'association La Cravate Solidaire depuis le mois de janvier.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Moi, je m'appelle Wendy Leray. Je sors d'une licence de psycho. Comme pour les masters, c'était un peu compliqué. J'ai décidé de faire un service civique à la Cravate Solidaire Nantes.
Est-ce que du coup, tu peux présenter cette association, la Cravate Solidaire ?
La Cravate Solidaire, c'est une association qui lutte contre les discriminations à l'embauche par rapport à l'apparence. En fait, ça a été fait à la base à Paris par deux jeunes diplômés qui se sont rendus compte que les personnes n'avaient pas forcément de tenue adaptée à l'entretien d'embauche. Donc, c'est un réseau de 12 associations dont la tête de réseau est à Paris. Du coup, nous, on est la 11e association à avoir été créée. Du coup, à la base, c'était un dressing solidaire. Et quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte aussi que malheureusement, il y avait des gens qui n'avaient pas vraiment les codes de l'entretien. Donc, de là sont nés les ateliers coup de pouce, qui sont les ateliers phares de la Cravate Solidaire. Du coup, c'est Bordeaux, il me semble, qui a eu l'idée de créer des ateliers en distanciel au lieu d'accueillir le candidat directement dans les locaux. On fait tout en distanciel. Et là où ça a été perturbé par le contexte sanitaire, c'est que du coup, comme on n'a pas de local, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie nos bénévoles essaient de trouver une tenue adaptée au candidat, mais avec ce qu'il a dans son armoire. Pour le moment, on est en phase de test à Nantes. On essaie de voir avec nos coachs en images ce que ça donne. Et puis voilà, comme on a eu nos premiers candidats, on va bientôt avoir un retour. Donc on espère que ça va fonctionner. Le peu qu'ils m'ont dit, c'est ouais, le distanciel, moi je voudrais avoir quelqu'un en face, quoi. Je voudrais vraiment avoir le contact. Genre, ça met une barrière en fait. En fait, ce qui se passe normalement en dehors de la crise sanitaire, tout se fait en présentiel, ou du moins en maximum. Et il y a vraiment ce côté contact que moi, du coup, j'ai beaucoup moins avec les candidats.
Et du coup, la pandémie n'a pas affecté ton service civique
Ça l'a affecté dans le sens où j'aurais... Enfin, comparé à ce que j'aurais pu faire si jamais on avait eu notre local, si on avait pu faire les choses en présentiel, ouais, effectivement, ça, mais c'est pas négatif, en fait. Ça reste... Il y a du boulot à faire, de toute façon. Et voilà. Et puis, ça me permet un peu d'élargir les missions. C'est trop bien.
Très bien. On va plutôt passer maintenant à ton travail sur le terrain. Alors, on a deux questions en une. La première, ce serait quelles sont tes missions ? Et ensuite, donc, quelle est ta journée type pour toi ?
Je m'occupe des candidats, en fait. C'est-à-dire que je prends contact avec eux, je leur fais remplir un questionnaire pour savoir si nous, on peut bien répondre à leurs besoins. Et puis moi, je fais un matching avec les bénévoles, nos bénévoles. Donc, on essaie d'avoir beaucoup, beaucoup de bénévoles pour pas trop les solliciter non plus. Et concernant la journée type, j'en ai pas vraiment. Étant donné que, vu que la cravate vient juste d'arriver à Nantes, on est vraiment dans cette phase de lancement. Donc moi, j'ai un rôle aussi là-dedans que j'aurais peut-être pas forcément eu si j'avais été dans une cravate déjà établie, en fait. C'est vraiment génial d'arriver dans le lancement d'une association comme ça.
Quel est ton retour sur ta mission de service civique pour l'instant ? Est-ce que tu es satisfaite de ton expérience ou est-ce que tu es déçue ?
Non, je suis hyper satisfaite. Honnêtement, je pense que c'est vraiment la meilleure décision que j' ai prise. Parce que j'étais vraiment... Je sors d'une licence de psycho, donc moi, vraiment, j'étais partie dans des longues études. Avoir un master, même avoir un doctorat, c'est mon ambition. Et le fait de m'arrêter pendant un an, je savais pas trop quoi faire, etc. Et quand j'ai trouvé le service civique, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais tenter.
Est-ce que le fait d'avoir fait ce service civique, ça te donne des idées plus précises sur, par exemple, ton orientation, si tu reprends un master après
ouais.
Est-ce que tu te dis, finalement, les études, pas tant, mais du coup, j'aimerais bien travailler là-dedans?
Ouais. J'ai choisi de postuler à la Cravate Solidaire parce que c'était en rapport avec mon projet pro, en fait.
D'accord.
Tout ce qui est insertion professionnelle, ressources humaines, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait déjà en psycho. Notamment aussi les questions de la discrimination, de n'importe quel type, c'est des choses que j'avais vues en psycho et qui m'intéressaient vraiment, donc je voulais me diriger là-dessus. Et en fait, ça ne fait que confirmer en fait, ce que je voulais déjà faire.
Cette capsule a été réalisée par Juliette et Hippolyte en service civique à Jet FM.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Cette chronique, vous pourrez la réécouter sur notre site l'autreradio.fr, comme toutes les autres, d'ailleurs, les autres chroniques services civiques. Nous sommes vendredi, c'est le cinquième et dernier jour de notre série consacrée à l'entreprise EcoCacao, basée à Saint-Berthevin, spécialisée dans la sélection, l'importation et la vente de cacao de l'Équateur vers la France. Une idée née en 2016 sous l'impulsion de Carlos Pulgarin. Et comme promis hier, aujourd'hui on va parler de grands crus et d'arômes, comme pour du vin, sauf qu'il s'agit évidemment toujours de cacao.
Il y a des notes et des tendances aussi, c'est comme la mode et la tendance dans les chocolats, dans les goûts. Ils vont chercher des notes florales, des notes des fruits rouges, des notes des noix, des notes des bananes. Bananes, ça commence à être un peu plus spécial ou spécifique à la fève et au cacao. Mais des notes florales, c'est l'arriva. Il n'y a que là qu'on peut trouver ça. Des notes florales, des roses, des notes de miel, des notes de bergamote, des citronnées, des choses comme ça. Il y a des régions en Équateur et précises où on va trouver ces cacao. Grâce à son entourage, grâce à son agroécologie qu'il y a autour, tant mieux si on peut l'avoir, quoi. Après, il faut aller le chercher. Si on ne fait pas attention à la distribution de la richesse qui produit les cacao ou les chocolats, oui, là on aura un peu mal à ça. Parce que les producteurs ils vont dire, bah, écoute, c'est plus intéressant de mettre des bétons, faire un bâtiment et les louer. Il faut savoir que l'urbanisme, il pousse les zones agricoles. Si ce n'est rien qu'ici, les zones de production des maraîchers, tout ça, chaque fois il est poussé. Je me rappelle à Saint-Berthevin, à Laval, quand j'y arrivais, j'avais des vaches à côté de moi. Aujourd'hui, on voit la réalité. Ça pousse la frontière agricole. Et en Équateur, c'est pareil. Donc, si on ne paye pas correctement, si on ne motive pas, si on ne fait pas de transformation, parce que c'est bien beau faire la fève, mais si on peut faire des chocolats en Équateur, faire une tablette en Équateur, avec des qualités, démontrer des choses qu'on peut faire, ça commence à se travailler. On a une association à Manavi, c'est 10 producteurs. On est en train de bricoler des machines, parce que la machine, ce n'est pas des Suisses, ce n'est pas des Allemands, ce n'est pas des Français, c'est des machines équatoriennes pour faire des tablettes de chocolat. Ce n'est pas la tablette comme ici, ok. Mais par contre, un arôme, un goût, c'est autre chose, parce qu'il vient d'être récolté, ce cacao. Il vient d'être la veille sorti de l'arbre et tout de suite mis à sécher, à fermentation et après tout de suite travaillé. Pour que notre chocolat il arrive, il faut 4 mois quand même de préparation, voire 12 mois de plus d'anticipation. Donc ça fait 6 mois pour que votre chocolat il arrive. Chaque année, votre chocolat, ça va être différent. Même celui-là, vous avez un 70% esmeraldas. On parle d'un chocolat féminin d'ailleurs, parce que c'est très 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 puissant en des notes de miel. C'est très très des photons, quoi. Photons, tout ça. Et ça s'anticipe, ça se prévoit. Donc là, il y a 6 mois qu'on a commencé à travailler déjà la transformation, la finesse, etc. Pour revenir donc à la notion d'année ou des crus, c'est que ces mêmes chocolats, les 2020, les 2021, ça va changer déjà un petit peu. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions climatiques, tout simplement. Je sais qu'on a beaucoup d'eau en Équateur, donc ça va changer un petit peu. Ce n'est pas les mêmes vins 2020, 2021, 2022. C'est des crus, hein. C'est pareil. Et des fois, les chocolatiers, ils sont surpris. Ils disent, vas-y, c'est pas pareil que l'année dernière, gros. Il ne sera jamais pareil que l'année dernière. Il va avoir quelques subtilités. C'est ça que c'est magique. Mais toujours, c'est de bon quand même. Ça reste bon.
EcoCacao connaît une période d'activité assez intense avec l'imminence de Pâques, évidemment, et les chocolats qui vont avec. Tous les épisodes de ce feuilleton sont à retrouver en podcast sur notre site internet. Et c'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi, Claire. Ce dimanche, on participe à la foire fleurie de Goron.
Eh oui, mais cette année, pas de traditionnelle foire avec les vélos fleuris ou la fête foraine, mais une randonnée. Une foire totalement repensée pour être compatible avec les restrictions sanitaires. Au programme, une opération ramassage de déchets de 10 à 12 heures au départ de la mairie de Goron. Une façon de sensibiliser les habitants à leur environnement. Il faut venir avec vos gants et votre gilet jaune. Et il faut aussi s'inscrire au 06 18 16 53 90.
Et Claire, on a jusqu'à lundi pour participer à une cagnotte pour la Ligue contre le cancer.
Et oui, c'est 5 étudiantes en BTS Commerce à l'ESUP à Laval qui ont lancé il y a quelques jours une cagnotte participative pour soutenir la Ligue contre le cancer et plus particulièrement la commission sociale qui attribue des soutiens financiers aux personnes malades. La maladie engendre souvent des baisses de revenus avec de gros restes à charge. L'argent récolté servira à financer des prothèses dentaires, capillaires, des frais de soins non remboursables, une aide ménagère et plein d'autres choses. La cagnotte est à retrouver sur le site KissKissBankBank en tapant « cagnotte en Ligue ».
Ah, cagnotte en ligue, pardon, oui. J'avais mal lu et je disais cagnotte en ligne, j'étais là mais pourquoi ? Oui, oui, donc cagnotte en ligue, d'où
petit jeu de mots
est plus facile à retrouver. Merci beaucoup Claire pour ces initiatives, si vous avez envie de partager les vôtres, n'hésitez pas à nous appeler sur notre répondeur au 09 70 40 54 40 ou sinon à nous laisser un petit message sur Twitter ou sur Facebook. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde, et ça y est, c'est déjà fini, c'est passé vite.
Et oui, cette émission, fin des émissions, en tout cas pour cette semaine, on revient lundi bien sûr. Bon week-end.
Bon week-end.
Et à lundi donc pour l'agité du local, mais les émissions continuent sur l'autre radio, puisqu'à 20h il y a Passe-moi le thème, avec un petit nouveau dans l'équipe, Antoine, qui justement parlera de ses chansons autour du sport. Et donc on se retrouve lundi à 12h15, d'ici là, passez un très bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.